www.radiotopaz.com. Rencontre par Marc Zisman.
But love, tragedy,
Madame. Madame. Madame.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Et bonjour.
Est-ce que vous buvez du vin ?
Oui, je bois du vin depuis ma plus tendre enfance, puisque mes parents étaient des petits viticulteurs du Midi de la France.
Ah, vous
je
allez
bois toujours
si
du vin, et je vais vous dire que le mois dernier, j'ai eu un privilège extraordinaire, j'ai été invité à passer une journée à la Romanée Conti, qui est le sommet avec une dégustation extraordinaire. Enfin, c'était parce qu'il y a un projet de livre sur la Romanée Conti, on m'a demandé d'écrire le texte, je n'ai pas dit non.
Alors, la légende veut que ce soit la première question que vous aurez posée Buñuel quand
vous
vous êtes rencontré.
C'est absolument vrai, c'est pas une légende, c'est une histoire. Quand on s'est rencontré, enfin, il m'a d'abord dit « comment allez-vous ?»
Avant,
et allons à la, passons à la salle à manger, et tout de suite, en s'asseyant... avec un regard assez inquisiteur, il m'a demandé... c'était pas une question de surface, mondaine, comme ça, de politesse. J'ai senti tout de suite que c'était une question profonde. Est-ce qu'il y a un lien profond entre nous ? Est-ce que vous buvez du vin ? Alors, quand j'ai répondu ce que je viens de vous répondre, il a commenté deux bouteilles tout de suite, et ça s'est très bien passé. C'est peut-être une des raisons. Plus tard, il m'a dit, si vous aviez été nul, au moins nous avions quelque chose de quoi nous pouvions parler.
Alors parler avec vous, Jean-Claude Carrière, c'est toujours presque une histoire sans fin. C'est vrai que quand on prononce votre nom, on en met tout de suite d'autres derrière. C'est-à-dire vos diverses casquettes, scénariste, romancier, dramaturge, dessinateur, parolier aussi, etc. Alors c'est vrai que le point de départ de cette rencontre aujourd'hui pour Cobuzz, c'est une casquette de librettiste, puisque vous êtes le librettiste d'un opéra qui s'intitule Wagner Dream, qui a été composé par Jonathan Harvey, qui sort au disque chez Cyprès. Alors c'est vrai que dans votre très 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 longue saga CV, je ne sais pas comment on pourrait dire, la musique parfois apparaît de temps en temps.
De temps en temps, oui, c'est vrai. Je ne suis pas musicien, je n'ai jamais pu apprendre la musique, quelque chose me bloque, et comme je l'ai toujours regretté, je me suis reporté sur des paroles, et j'ai fait pas mal de paroles de chansons, même tout un disque avec Juliette Gréco une fois, oui. Et des paroles de chansons de films aussi. Ah, Les Petites Femmes de Paris, par exemple, dans Viva Maria, c'était de moi. Ça a été chanté chez Michou pendant des années, vous voyez, le soir, par deux travelots. Non, j'ai toujours été très, très, très proche de la musique sans jamais pouvoir vraiment la pratiquer.
Alors justement, avant de rentrer peut-être dans le détail de ce Wagner Dream, justement, comment le sculpteur qui malaxe cette glaise de verbes, de mots, de phrases que vous êtes, que ce soit pour le cinéma, pour le théâtre, pour vos propres livres également, appréhende justement ces mots, ces verbes, cette matière mise dans un contexte musical quel qu'il soit, d'ailleurs que ce soit de la chanson dite populaire, vous avez cité quelques exemples, ou de la chanson on va dire un peu plus savante.
Il y avait deux choses passionnantes dans ce projet. Moi, je ne m'engage dans un projet que si d'abord il m'intéresse et surtout s'il est nouveau, s'il va me permettre d'ouvrir une autre porte, de découvrir un territoire que je ne connaissais pas jusque-là, ce qui était le cas avec cette musique de Jonathan Harvey. Et la deuxième condition, c'est de sentir que je peux y être utile. Sinon, je reste à l'extérieur. Et là, il y avait ces deux qualités-là. C'est-à-dire que Jonathan, que je connaissais, mais sans le connaître personnellement, est venu me trouver avec ce projet extraordinaire d'un opéra. J'ignorais tout du fait que Wagner avait longtemps rêvé d'écrire une œuvre d'inspiration bouddhiste. Je l'ignorais. Et j'ai lu à ce propos tout ce que j'ai pu trouver, c'est peu de choses en réalité, c'est quelques notes d'intention écrites par Wagner sur les origines du bouddhisme et sur ce qu'il aurait voulu faire. Il n'a jamais écrit la moindre ligne, la moindre portée de l'opéra. Mais avec Jonathan, nous avons commencé à parler de ce brochet. Et Jonathan avait eu l'idée, que je trouve jusqu'à maintenant formidable, de faire que ce projet que Wagner a longtemps porté en lui, au moment de sa mort, il meurt dans une chambre d'hôtel à Venise, comme c'est bien connu, au moment où il a son attaque qui va l'emporter, un an éclair, cet opéra qu'il n'a jamais pu écrire lui est donné. Lui est apporté au moment même de sa mort, comme une dernière illumination. J'ai beaucoup pensé à cette occasion à une phrase que Jean-Luc Godard avait dite à propos de Cris et chuchotements de Bergman, où il avait dit, ça m'avait beaucoup frappé, c'est comme un film que l'on verrait dans un simple battement de cils. Un œil s'ouvre, se ferme, on a vu tout un film. C'était ça l'idée de départ, de réduire en un instant tout un opéra. Alors ça me fascinait. Après ça a commencé le travail. Je dois dire que quand vous dites que j'ai écrit le livret, d'abord Jonathan avait beaucoup écrit lui-même en matière d'opéra, ce qui pouvait se passer de telle à telle scène, etc. Parce que ça, je n'arrivais pas comme ça. Je ne débarquais pas avec l'idée. Il va falloir que j'écrive un livret. Il m'a laissé écrire des passages entiers. Il m'a même donné l'occasion, et c'est la première fois de ma vie, probablement la seule, d'écrire un poème en anglais, d'écrire une chanson en anglais directement, qui est dans l'opéra. Parce qu'il faut dire aussi que la curiosité que j'avais était de faire un opéra dans une autre langue que la mienne, ce que je n'avais jamais fait jusque-là, y compris pas de chanson. Ça, c'est très passionnant de voir. Tout le monde dit que dans les chansons, et en particulier dans ce qu'on appelle la musique pop, l'anglais est plus facile à chanter que le français, ce de quoi j'ai toujours douté. Le français étant meilleur pour ce que nous appelons nos bonnes chansons françaises. Vous voyez. Alors là, l'occasion m'était donnée de voir ce que ça pourrait donner. Ces deux ouvertures, d'un côté un sujet extraordinaire auquel je n'avais jamais pensé, et de l'autre côté la langue anglaise, m'ont beaucoup décidé à me lancer dedans. On va dire, j'ai décidé en 3 minutes. Alors, il faut dire aussi que à cette époque-là, j'avais déjà travaillé avec le Dalai Lama, je connaissais bien l'Inde, j'ai adapté le Mahabharata, donc je connais bien l'hindouisme, le bouddhisme. Par la suite, avec le Dalai Lama, Jonathan savait tout cela. Il est lui-même très, très impliqué dans le mouvement bouddhique qu'il pratique. Et nous nous sommes trouvés là sur un niveau de connaissance comparable. C'est-à-dire que nous n'avions ni l'un ni l'autre quelque chose à apprendre à l'autre. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, nous connaissions bien ce que nous croyons savoir des origines du bouddhisme, puisque c'est à cette époque-là que ça se passe, des premiers mouvements, du personnage d'Ananta, etc., qui apparaissent dans l'œuvre, et du moment où le Bouddha mourant, confie son enseignement à son premier disciple. Donc tout cela, nous le savions, nous avons eu à l'ajuster. Ce qui m'a le plus stupéfait, évidemment, c'est la musique. C'est-à-dire que j'ai écrit le livret. Au fond, il m'a dit, Jonathan, écris le livret comme n'importe quel livret. C'est-à-dire, n'essaie pas d'adapter tes paroles à ma musique.
Et comment justement...
Ça viendra.
Est-ce que c'est venu facilement? Comment justement vous avez appréhendé? Est-ce que vraiment votre travail était vraiment différent de si vous aviez aligné des mots pour un roman, pour les mettre dans la bouche d'un acteur?
Oui, il était différent d'abord parce qu'il était en anglais. C'est déjà la première fois que j'écrivais en anglais, mais déjà c'était différent. Et par la suite...
Sur la musicologie même,
la musicalité. Oui, j'avais quand même une idée des deux aspects de cette musique. Du fait qu'il y avait des récitatifs, et puis qu'il y avait aussi un orchestre présent sur scène. Ça, c'est ce que l'on oublie souvent de dire. Il faut tenir compte de tout ça quand on écrit. Il y avait, d'un côté, je savais que pendant toute l'œuvre, il y avait Wagner dans un coin mourant. C'est le clin d'œil. Il meurt en un instant. Cet instant dure tout un opéra. Et dans cet opéra, dans toute la toile du fond, les personnages qu'il avait longtemps rêvé de mettre en scène, et à qui il avait longtemps rêvé de donner des mots et une musique, apparaissent comme pour lui faire un dernier cadeau, comme pour lui dire « Tu ne t'en iras pas de ce monde avant d'avoir reçu ça de nous, toi qui rêvais de le faire. » Vous voyez, c'est assez beau comme, comme idée. Alors, c'est interrompu de temps en temps par la femme, par le, il y a un ou deux personnages, entre guillemets, réalistes. Une de ses anciennes danseuses qui vient lui rendre visite, dont on peut soupçonner qu'elle a été sa maîtresse, il ne négligeait pas de temps en temps ce point-là. Et, mais le fait est que c'est une mort, c'est une fin de vie, une mort illuminée par le bouddhisme. Et j'ai été aussi, pour tout vous dire, très frappé, très intéressé par la manière dont Jonathan travaillait. Et même surpris de voir à quel point un compositeur de ce type-là est physiquement impliqué dans la représentation. C'est-à-dire que pendant une représentation, il y a une musique évidemment enregistrée, qui sont tous les sons avec lesquels il va pouvoir jouer, et la musique de l'orchestre, petit orchestre, qui est sur scène. Cette, la musique du petit orchestre qui est sur scène, il peut, lui, qui se tient au fond de la salle, à chaque représentation avec son clavier, il peut la modifier, il peut en modifier les intensités, il peut donner plus d'importance à tel ou tel instrument. En plus, il y ajoute ses instruments, je dirais ses sons à lui, dont il dispose sous ses doigts. Et c'est une représentation qu'il donne physiquement au point qu'à la fin de la représentation, le compositeur est épuisé. Suant et épuisé, on n'imagine pas ça de cette musique-là. Oui, c'est comme une performance physique. Ça, ça m'a beaucoup frappé. Je n'ai vu l'opéra que 3 fois, mais à chaque fois, ça m'a beaucoup frappé.
Don't!
Alors on a cité l'Inde, on a cité le bouddhisme dans les points de départ de cet opéra. Il y a Wagner également. Alors effectivement c'est sur un instant bien précis, mais je voulais vous demander à titre personnel, qu'est-ce que la musique de Wagner, donc vous avez dit au début que la musique, vous étiez effectivement peu aventuré dans votre carrière à différents niveaux, avant de vous plonger dans ce travail, peut-être de vous être plonger un petit peu dans la vie de Wagner, je ne sais pas, par des recherches supplémentaires. Qu'est-ce que Wagner et sa musique en général représentaient à titre personnel dans...
Oui, j'ai lu une ou deux biographies de Wagner quand même avant de... Et comme je vous le disais, toutes les notes, le peu de notes d'ailleurs qu'il a prises sur ce projet. La musique de Wagner, moi je n'ai pas une très grande culture en musique classique, moderne non plus d'ailleurs, mais enfin une culture normale, disons. Donc Wagner, je l'ai entendu, j'ai vu certains de ses opéras, etc. Et un des souvenirs pour moi inoubliables de Wagner, mais c'est marrant comme quelquefois nos souvenirs musicaux sont liés à un événement particulier. C'est la première fois que j'ai vu Le Chien andalou de Buñuel, parce que c'était un film muet, donc un film de 1926, dans la bande sonore, il a mélangé le tango argentin et Wagner. Et ça, ce mélange était très très étonnant et fonctionnait et fonctionne toujours très bien, car cette bande originale n'a pas changé. Donc, mon premier contact avec Wagner, je dirais, vient du ciné-club de quand j'avais 15-16 ans. Vous voyez, quelque chose comme ça, 15-16-17 ans. Dans ma prime enfance, je n'avais pratiquement aucun contact avec la musique classique, car dans le village où je vivais, il n'y en avait pas. On n'en entendait pratiquement pas. Ce n'est que peu à peu que j'ai dû faire par moi-même ma pauvre éducation.
Dans cette éducation, qu'est-ce que l'opéra en tant que forme d'expression?
Ah, l'opéra, c'est une toute autre histoire de laquelle je pourrais vous parler longuement.
Avec la tragédie de Carmen aussi.
Oui, la tragédie de Carmen d'abord avec Pierre Bouc, avec Marius Constant. Voilà, j'ai écrit deux livrets pour l'opéra comique, qui s'appelait Clara, l'autre Le Dernier Jour de Socrate. Donc je connais un peu ce milieu-là. Je l'ai fréquenté. Ce qui me fascine dans l'opéra, je parle là d'un point de vue de auteur dramatique, si j'ose dire de dramaturge, c'est que la dramaturgie de l'opéra n'est pas du tout la même que celle d'un film ou d'une pièce de théâtre, je dirais ordinaire, quotidienne. D'ordinaire, nous avons affaire à des dramaturgies où une scène succède à l'autre en la remplaçant. Elle prend la place de la scène précédente et se développe ainsi. C'est toujours comme ça. C'est pas comme ça dans l'opéra. C'est-à-dire qu'à cette dramaturgie successive, nous pouvons substituer une dramaturgie simultanée, où plusieurs scènes peuvent avoir lieu en même temps, où plusieurs musiques peuvent se mélanger, plusieurs voix même peuvent chanter au même moment. Alors ça, c'est très passionnant de voir que nous captons l'attention du spectateur de plusieurs manières à la fois. À la fin des noces de Figaro, je crois qu'il y a 6 chanteurs qui chantent 6 thèmes différents qui sont réunis par la musique, c'est tout, mais chacun exprime son propre personnage. Et ça, ça m'a toujours fasciné, jusqu'où on peut aller dans cette complexité d'une action à multiples facettes. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je ne savais pas et que j'ai apprise avant de rencontrer Jonathan, c'est qu'une répétitrice de l'opéra comique très très compétente m'a dit une fois, et je ne l'ai jamais oublié, si vous avez, chaque fois que vous faites chanter plusieurs personnes en même temps, si vous avez quelque chose d'important à dire pour la compréhension de l'histoire, il faut le dire dans les 3 premiers mots, parce qu'ensuite c'est perdu. C'est perdu. On ne comprendra plus rien. Ça va, quoi que l'on fasse et quoi que fassent les chanteurs ou l'orchestre, ça va se brouiller assez vite, plus vite pour certains spectateurs que pour d'autres mieux aguerris, mais ça va se brouiller tout. Donc, si vous avez quelque chose d'essentiel à la compréhension de l'histoire, dites-le dans les 3 premiers mots. Ça, ce sont de ces petits secrets qu'on apprend, vous voyez, peu à peu, en pénétrant un milieu qui, au départ, n'était pas le mien. Mais je le pénètre, évidemment, par mes armes. Je ne prétends pas du tout me mêler des discussions musicales, n'étant pas moi-même musicien. Bien entendu, j'ai mes préférences pour tel ou tel moment, pour telle ou telle musique. J'ai beaucoup aimé celle de Jonathan, avec ce type de musique, je n'avais jamais eu de contact professionnel, j'en avais entendu, mais sans avoir du tout ce contact-là. Et je me suis rendu compte que c'était relativement facile. C'est-à-dire que peut-être c'est la personnalité de Jonathan, mais qu'il n'y avait pas quelque chose de intellectuellement compliqué, comme on le dit quelquefois à propos de cette musique-là, pas du tout. C'est, on y rentre aussi facilement que dans l'autre, peut-être même plus facilement, dans la mesure où Jonathan me laissait vraiment une très grande liberté, je dirais, dans la longueur des répliques, ouais, dans leur intensité, dans la répétition. C'était très passionnant, je ne me souviens plus, ça fait déjà pas mal d'années que nous avons fait ce travail, je ne me souviens pas en détail, je ne peux pas vous donner d'exemples détaillé, précis, mais je me souviens d'un vrai bonheur dans le travail et pas d'une difficulté extrême.
Dans ces spécificités de narration qu'offre l'opéra, est-ce qu'il y a des opéras en particulier qui vous fascinent plus que d'autres, justement, dans ceux que vous connaissez en tant juste que mélomane, tout simplement, ou que, par rapport à ces problématiques de temporalité, etc. Est-ce qu'il y en a quelques-uns?
Oui, moi j'ai toujours eu une tendance, une attirance pour les musiques un peu plus anciennes. Je veux dire, je remonte à la cour de Bourgogne, à Guillaume Dufay, dans mes goûts, vous voyez. Et puis pour Purcell, évidemment, pour toute cette partie de ce qu'on appelle l'opéra baroque du XVIIe, XVIIIe siècle. J'aime aussi beaucoup Mozart. Je suis moins sensible à l'opéra classique européen du XIXe siècle, sauf à Bizet, sauf à Carmen, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, et à l'Arlésienne. J'ai fait une fois une adaptation parlée de l'Arlésienne, qui était un exercice formidable à faire. C'est-à-dire que c'était Pierre Jourdan, au théâtre de Compiègne, qui m'avait mis en scène. J'arrivais sur scène, il y avait un orchestre complet qui jouait non pas la musique de l'Arlésienne, mais toute la musique que Bizet avait composée pour l'Arlésienne, et pas celle de la pièce, qui n'est pas celle qui sert à illustrer la pièce. Donc il y avait un orchestre qui jouait la musique, j'avais des petits repères lumineux, des petits points lumineux qui s'allumaient, et je lisais un texte que j'avais écrit d'après Alphonse Daudet au sujet de l'Arlésienne. C'était comme si j'étais un vieux paysan de Camargue qui venait raconter une triste histoire qui était arrivée dans son mas. C'était formidable. Les gens étaient tout à fait... vous voyez, ça fait partie de ces expériences qu'on peut quelquefois se permettre avec une œuvre lyrique, qui en l'occurrence n'est pas une œuvre lyrique, puisque c'est une œuvre de théâtre pour laquelle Bizet avait écrit une musique. Mais Bizet est un merveilleux compositeur. Quel dommage qu'il ait disparu si tôt. Il était brisé par l'échec de Carmen. Apparemment, il s'est laissé noyer comme ça, en se baignant un jour. Mais bon, ça, on ne le saura jamais.
J'ai rencontré un homme au bord de l'eau, un jour d'été. Il me demanda de faire un tour en bateau. Je refusais. Il avait une drôle de tête, un petit nez en trompette et des yeux. Il vint s'asseoir près de moi sur la plage un jour d'été. Il me demanda de caresser son visage. Je refusais. Il avait un coup de soleil, du sable dans les oreilles. Les yeux. Il regarda longuement vers la mer un jour d'été. Puis il me dit, venez, je vous offre un verre. Je refusais. Il n'avait pas bonne mine, des doigts pleins de nicotine et des yeux. Je viens d'étrangler ma femme. Un jour d'été, accompagnez-moi sur les lieux du drame. Je refusais. Il avait un chapeau de paille autour du cou. une médaille et des yeux bleus. Il me dit, vous pourriez me sauver la vie. Un jour d'été, venez nager avec moi, je vous prie. Je refusais. Il avait des mains nerveuses, une bague peu coûteuse et des yeux. C'est quelqu'un qui divague. Un jour d'été, il se leva et entra dans les vagues sans se retourner. Il disparut dans l'écume. Je ne vis plus son costume ni ses yeux.
Je voudrais revenir sur la musique dite populaire. Donc vous avez effectivement écrit des textes pour des chansons, comme on dit. Est-ce que quand on aborde justement sur cet aspect-là, votre rôle, c'est-à-dire de poser un stylo ou une plume, je ne sais pas, maintenant, même aujourd'hui, peut-être sur un ordinateur, vous me direz comment vous alignez les mots, est-ce qu'il est différent? Est-ce que finalement, c'est la même chose quand vous avez à adapter l'insoutenable légèreté de l'être, quand vous écrivez des mots qui vont passer dans la bouche de Juliette
non,
Gréco.
C'est pas tout à fait pareil. Gréco m'a dit un jour, faites très attention, une chanson, c'est un petit drame en 2 minutes et demie. Il faut que tous les éléments y soient, même si évidemment c'est pas développé, il n'y a pas de dialogue, mais il faut vraiment qu'il y ait une progression. C'est le mot important, que ça ne soit pas une répétition, que même si une chanson commence comme beaucoup de chansons, par « je suis de ce type-là, je suis... » Vous savez, même beaucoup de chansons sont autodéfinissante. Vous voyez, le personnage qui chante se décrit. Mais même là, il faut qu'il y ait une évolution. Ça, elle m'a beaucoup appris ça. Et c'est très, très amusant et plus que passionnant d'un point de vue dramaturgique. En ce qui concerne la chanson populaire, moi, c'est la base même de ma culture au sens très large du mot. Puisque quand j'avais 13 ans, je suis venu à Paris et mes parents tenaient un bistrot très, très populaire dans la banlieue à Montreuil-sous-Bois. Il y avait un jukebox. Et toutes les chansons de cette époque-là, je les attendais toute la journée, plusieurs fois par jour. Donc je connais par cœur, mais par cœur, le répertoire de Jacques Pils, de Bert Silva, de toutes les chansons de Georges Hulmer, de tous les grands chanteurs de connus à cette époque-là. Au point que tous les matins, quand je me lève, ou presque tous les matins, il y a une chanson, quand je sors du lit, qui me vient aux lèvres et que je fredonne au moins jusqu'à 10h ou 11h. Et ne croyez pas du tout que ce soit du Wagner ou du Mozart. C'est de la compote. Vraiment, c'est toujours Marinella reste encore dans mes bras ou une chose pareille. C'est très étonnant comme au fond, mon fond musical est ça. Et il vient de ce bistrot-là. Bon, c'est aussi dans ce bistrot que j'ai rencontré Django Reinhardt, parce que c'était le bistrot des Gitans de Montreuil, et que c'est lui qui, à 15 ans, m'a amené m'inscrire au Hot Club de France. Bon, là, en matière de jazz, je sais beaucoup plus de choses. Mais il n'empêche que quelque chose reste de ça. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, je parlais avec Aznavour, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, et pas comme parolier, mais comme acteur. La dernière fois, c'était dans le Père Goriot à la télé. Et je lui disais, est-ce que tu te souviens, il y avait une chanson que chantait Georges Hulmer, je parle là des années 47 ou 48, qui disait j'ai bu, j'ai dit des mots qui passaient dans mon âme, mets-toi dans ta petite tête de femme. Et Charles m'interrompt, me dit, tu sais que c'est moi qui ai écrit les paroles. Je lui dis, c'est pas possible. Mais si, il écrivait des paroles à 16 ans déjà, 16, 17 ans. Ces paroles-là, c'était de lui. C'est formidable comme rencontre. Et ces chansons-là qui sont très faciles à retenir, très simples, très, très bébêtes, on travaille. Moi, je les ai portés toute ma vie. Si je m'allongeais sur le divan d'un psychanalyste et si je me laissais aller, peut-être je chanterais Marinella.
Est-ce que justement, c'est le fait que le format soit court et que finalement le compteur narrateur que vous êtes soit contraint à des 2-3 minutes des formats courts, oui, qui fait que finalement vous n'avez pas persévéré, que vous n'en faites pas tant que ça?
Mais il y a aussi le fait que j'ai probablement, c'est pas le cas pour tout, j'ai probablement une mémoire faite pour ça. Je retiens. Vous savez que la mémoire, les deux parties de notre cerveau cèdent, S'AIDE, l'une l'autre. Et que quand un aphasique n'arrive pas à se rappeler ou à dire un texte, si on lui demande de le chanter musicalement, il y arrive. Donc la musique qui vient de la partie droite de notre cerveau aide la partie gauche. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça en ce qui me concerne. Quand un texte est mis en musique, l'autre jour, je revenais à l'aéroport à Roissy, l'aéroport 1, le vieux. Il y a un très long tapis roulant. Alors, sur le tapis roulant, ils mettent des disques comme ça, anciens. Et tout à coup, Tino Rossi chantant Marinella. Je connaissais chaque parole. C'était extraordinaire. C'est complètement idiot, ce sont des paroles absolument. Pourquoi mon cerveau s'est encombré de ça? Quels sont les neurones distraits qui ont gravé une fois pour toutes, et je ne les oublierai jamais, Marinella reste encore dans mes bras, je veux jusqu'au lever du jour danser cette rumba d'amour, je ne saurai jamais. Vous voyez, c'est un vrai mystère. Il y a des choses de l'autre côté, je n'ai pas une bonne mémoire musicale en ce qui concerne la musique classique. Il peut arriver qu'on me joue un morceau très très connu, que je connais, que j'ai entendu souvent, et je suis incapable de l'identifier et de mettre un nom dessus. C'est très très curieux. Il me faut peut-être des paroles.
Oui. Est-ce que pour vous, c'est vital pour le fleuve un peu, le fleuve que vous êtes, de passer d'un scénario de film ou télévisé à une chanson, à une pièce, etc.
Vital,
Il y a un besoin parfois. Est-ce que finalement, justement, le côté un petit peu, même si effectivement on reste sur de la narration, sur le côté conteur, etc., en permanence, toujours, de passer d'un univers et d'avoir effectivement des médiums différents, des passeurs de votre prose différents,
J'ai eu la chance de naître comme vous dans le seul siècle qui ait inventé de nouveaux langages, le 20e. Nous serions aujourd'hui à la fin du 19e, nous ne pourrions parler que de théâtre et de littérature. Pensez à tout ce qui s'est passé depuis.
La musique enregistrée,
le cinéma, la musique enregistrée, les sons enregistrés, la radio qui porte la voix et les sons au loin, la télévision, le cinéma parlant, toutes les nouvelles techniques d'aujourd'hui qui chaque fois... Vous savez que la grande ambition de la technique, c'est de se passer de la pensée. Elle n'est jamais arrivée jusqu'à maintenant. Mais chaque nouvelle technique, et on l'a bien vu pour le cinéma, c'était très très clair, nécessite l'invention d'un nouveau langage. Et c'est ça qui m'a, je crois, le plus fasciné toute ma vie. C'est aussi pour ça que j'ai toujours refusé d'être metteur en scène de cinéma, pour ne pas avoir à passer 4, 5 ou 6 années sur un projet, parce que j'ai voulu explorer toutes ces écritures et... L'activité du librettiste est une de ces activités. Et en plus, dans le cas de Jonathan Harvey, de cette musique-là, c'était aussi nouveau pour moi. Je voulais voir ce qui se passait et comment je pourrais m'en sortir.
Qu'est-ce que vous apprenez, justement, même sur vous-même, sur votre appréhension de la narration, quand vous utilisez quelque chose de, pour reprendre votre mot, nouveau? Vous avez dit, effectivement, cette expérience, il y avait un aspect nouveau.
Écoutez,
dans votre curiosité permanente et presque...
Je ne m'intéresse pas beaucoup moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne suis pas de cette école de gens qui disent « connais-toi toi-même ». Je crois que c'est impossible, de toute manière, c'est une illusion. Et je dirais plutôt « ne te connais pas ». Reste ouvert à tout ce qui peut te pénétrer. Mais n'essaie pas de t'imposer toi à tout ce qu'on t'apporte. Bien entendu, on attend de toi un savoir-faire, ça c'est évident. Il faut avoir un certain métier, des certaines notions de ceci, de cela. Bon. Mais l'idée d'imposer ma entre guillemets, pensée ou mes, entre guillemets, idées à tout sujet qu'on m'apporte, mais parfaitement étrangère. Je ne me trouve pas assez intéressant pour en arriver là. Vous voyez, je ne suis pas, en matière de mon travail, un égocentrique du tout. Je peux l'être dans la vie, mais pas dans mon travail. Et de la même manière que je ne suis pas un homo culturel. Hein. Je ne suis pas un homosexuel, je suis un hétérosexuel, j'ose l'avouer, mais je suis aussi un hétéroculturel. Et toute culture, plus une culture m'est étrangère, et plus le porteur ou la porteuse de cette culture m'est étrangère, plus elle m'attire. J'ai toujours été comme ça, depuis l'enfance, peut-être parce que je suis né dans un petit village bloqué entre des montagnes et que je n'avais qu'une envie, c'était de connaître le reste du monde. De ce point de vue-là, j'ai été gâté.
Quand est-ce que vous cachez, est-ce que vous êtes une sorte de caméléon quand dans vos différents faits d'armes, vous vous retrouvez face à quelque chose d'existant, quand vous êtes devenu un adaptateur, un scénariste, quand vous avez la matière de départ peut être Carmen, la matière de départ peut être Cyrano, peut être Wagner ou un instant de sa vie comme ici. Donc quelque chose, est-ce que c'est une manière pour vous d'enfiler le costume, la peau de quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu comédien parfois?
Oui,
aussi
essentiel. Je veux dire, on ne peut vraiment écrire une scène que quand on peut la jouer. Et de préférence avec quelqu'un, de préférence avec un metteur en scène ou un collaborateur. Ça aide énormément. Quand on a en plus la chance de travailler avec des acteurs qui se prêtent à ça, comme Depardieu par exemple, et qu'on a la chance de travailler avec lui au moment même de l'écriture, ça aide beaucoup. Parce qu'on voit déjà une première forme de ce que ça va pouvoir donner. Oui, bien sûr, je m'implique au maximum, mais je me considère plutôt comme un artisan ayant une certaine réflexion sur ce qu'il fait, mais pas du tout pour un philosophe de l'écriture, vous voyez ce que je veux dire, pas du tout pour un penseur disant « écrire c'est ça, et puis c'est comme ça qu'il faut écrire », pas du tout. Je me suis beaucoup engagé dans pas mal de combats civiques, toujours de façon bénévole. J'ai créé la FEMIS, quand même, l'école de cinéma et de télévision, je l'ai présidée pendant 10 ans, j'ai énormément travaillé sur la transmission, sur l'éducation, sur la formation. Je ne le regrette absolument pas, ça m'a toujours beaucoup aidé. Encore là, je vous parle, nous sommes au mois de mars, au mois de janvier, je dirigeais un atelier à l'école de Sam Spiegel à Jérusalem, avec 25 étudiants en cinéma israéliens. Le mois suivant, j'étais à Téhéran, vous voyez, dans les mêmes circonstances et conditions. C'est extrêmement passionnant d'aller comme ça d'un groupe de jeunes à l'autre, partout dans le monde. J'ai la chance de pouvoir travailler en 3 langues, donc de voir avec eux, et du point de vue de la fiction, quels sont les problèmes qui les intéressent et qui les passionnent et qu'ils ont envie de dire, vous voyez.
Je ne vais pas revenir sur le psy, le divan du psy que vous évoquiez tout à l'heure, mais
je chante.
quand on a comme ça cette envie, une sorte de gloutonnerie, de briser les étiquettes, de briser ce qu'on attend, effectivement, de part de vos différentes facettes, on a dit, librettiste, scénariste, etc., sur des univers différents. C'est vrai, quand on peut passer de Pierre et Texte à Wagner, de tous les sujets qu'on sait, de Shima à je ne sais qui, et, etc., il y a vraiment, effectivement, un côté 360 degrés par rapport à ce qui se passe.
Encore faut-il que chaque fois ce soit un certain niveau de qualité d'exigence.
Tout à fait. Mais je voulais essayer.
Oshima, Pierre et Tech, c'est des gens très exigeants.
Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, on croise rarement des gens peu intéressants si on prenait tous les noms des gens. Mais ce que je voulais dire, c'est essayer de revenir un peu à l'origine de ça. Quand j'utilisais le mot le nom de Freud, c'était d'où vous est venu ça? Est-ce que ça a tout de suite été en vous quand vous étiez jeune? Vous avez évoqué votre enfance qui finalement, au début, vous n'avez pas tellement de culture chez vous à la maison.
Non, mais
c'était une volonté d'évasion. D'où vous est venu ce côté sans ornière?
Enfant, j'avais 6 ans, 7 ans, me mettait sur les tables pour que je raconte ceci ou cela, des textes que j'avais appris dans des livres d'enfants et que je connaissais par cœur. Ça, j'ai toujours eu, je pense, une certaine disposition à dire, à raconter. Vous voyez, après ça, j'ai tout de suite été assez tôt. J'ai fréquenté beaucoup la cinémathèque, les ciné-clubs, etc., tous les théâtres de ma jeunesse, théâtre Jean-Louis Barrault en particulier, théâtre Marigny, le Festival d'Avignon, tout ça. Mais très très vite, j'ai été conscient de la nécessité de travailler. C'est-à-dire qu'un don ne suffit pas, il faut une technique. Et il y a une phrase de Georges Brassens dans une de ses chansons qui est magnifique. Il parle de... Je pourrais presque vous la chanter.
Allez-y, on est sur un site.
Il parle d'une fille de joie et il dit « Elle avait la taille faite au fou, elle avait la taille faite autour, les hanches pleines, elle chassait le mal aux alentours de la Madeleine. » Vous vous rappelez cette chanson? Alors, à sa façon de me dire « Mon rat, est-ce que je te tente ?» Je compris que j'avais affaire à une débutante. Alors, il va avec elle et il lui enseigne. Et il dit ceci qui est très... Elle avait le don. C'est vrai, j'en conviens, elle avait le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Et ça, c'est ultra juste. Parce qu'on voit très bien des gens qui ont un don de, d'écrire, même au lycée quelquefois, qui écrivent plein de poèmes partout, mais sans la technique, ces poèmes s'envoleront, il n'en restera rien.
Vous avez trouvé du contrat rapidement, ça ?
Assez rapidement, oui. J'ai été assez vite conscient de ça, oui. J'ai fait des études compliquées, difficiles, normal sup, tout ça, ça aussi, ça vous forme à une certaine exigence. Ces études-là m'ont servi toute ma vie comme... d'une espèce de, comment dire, de socle, vous voyez, sur lequel je peux m'asseoir, me reposer un instant. Je sais qu'il y a tout un tas de choses que je n'ai pas à apprendre, que je me suis donné beaucoup de mal pour apprendre à l'époque. J'ai énormément travaillé dans mon adolescence et ma jeunesse. Bon, c'est une espèce de protection contre l'ignorance qui nous guette de tous les côtés. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir, ce que je vous disais tout à l'heure, que la technique est en constante évolution et qu'il faut constamment l'apprendre et la réapprendre. On ne peut pas l'enseigner si on ne l'a pas apprise. Et si on, même on ne peut pas l'enseigner si on ne l'a pas pratiquée. C'était une des conditions essentielles de la FEMIS au départ, que tous les enseignants soient des professionnels en exercice et qu'ils puissent être tout à fait au courant des toutes dernières techniques en usage. Alors, pendant 10 ans de FEMIS, je me rappelle, la technique de montage vidéo a changé 3 fois. 3 fois en 10 ans. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous avez la responsabilité d'une école et que vous devez acheter du matériel ? C'est un gros budget, vous voyez, qu'est-ce que vous faites ? Alors je m'adresse à l'Assemblée Générale que je préside, qui est composée des 80 meilleurs techniciens français. Je m'adresse aux 15-20 ingénieurs du son qui sont là, ils ne sont pas d'accord sur le modèle à choisir. Qu'est-ce que je fais ? C'est des vrais problèmes auxquels j'ai été confronté toute ma vie. Je préside depuis 25 ans un festival de théâtre à Montpellier, le printemps des comédiens. Eh bien, c'est chaque fois la même chose. Il y a ce genre de problème qu'il faut résoudre, je dirais, les mains dans le cambouis, s'il y avait du cambouis. Il y en a de temps en temps.
Finalement, c'est très intéressant ce que vous venez juste de citer, parce que là, on est dans la réalité la plus vraie, la plus concrète.
Ah oui, bien sûr.
Pour le conteur que vous êtes, quand on dit conteur, il y a aussi l'aspect fantastique. Donc, on a un peu les deux,
oui, mais
les deux extrêmes de...
J'ai toujours été. La chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, sans aucun doute, c'était 11 ans de travail, c'était l'adaptation avec Peter Brook du Mahabharata indien. Et pour ce travail-là, sans Peter Brook, jamais je n'aurais osé m'y lancer. C'est énorme. Le Mahabharata, c'est 12 ou 13 fois la Bible. Ouais. C'est une œuvre gigantesque sur laquelle repose toute la culture indienne. Donc quand on l'attaque, on se sent une vraie... On sent la difficulté de la chose et aussi la responsabilité. Il n'est pas question de trahir ce qui est l'image même, le cœur même de l'Inde. Donc pour ça, on a été en Inde, je ne sais pas combien de fois, travailler avec des groupes d'acteurs, de danseurs, de musiciens, un peu partout, vous voyez. Et finalement, ça m'a donné de l'Inde une connaissance, non pas de touriste évidemment, mais non pas théorique, mais une connaissance pratique. C'est-à-dire que j'étais il y a 4 ans à Calcutta, une fois de plus, et dans une partie comme ça, mondaine, je rencontre une dame dont on me dit qu'elle est une grande chorégraphe de danse indienne. Alors je la salue, elle me connaissait de réputation. Je lui dis, est-ce que je pourrais venir assister à un de vos cours ? Mais elle me dit, oui, avec plaisir. Mais je lui dis, si je viens à un de vos cours, est-ce que vous pourriez me confier vos danseurs pendant 1 heure, que j'en fasse faire des exercices de théâtre ? Elle était fascinée, ouais, c'était très intéressant. Alors, j'ai dirigé pendant 2 heures un groupe de garçons et de filles entre 18 et 25 ans, indiens, pour leur faire faire des exercices de théâtre. Pas de danse, c'est pas la peine, je suis pas un danseur. Non, mais c'était très passionnant de voir à quel point certains exercices purement physiques, de placement, de changement de position, ils le faisaient très très bien, immédiatement, et d'autres, ils n'y arrivaient pas. Ils avaient une forme, vous voyez, dans leur corps, hors de laquelle il était très difficile de sortir. Et ça, évidemment, c'est contre ça qu'il faut lutter. Quand on a en soi un nœud, d'abord il faut le repérer, et ensuite essayer de le défaire, et pas à la manière d'Alexandre et de son nœud gordien. Le défaire en souplesse. Not only is she a woman, but she is an untouchable inferior blood.
Inferior blood, what does it mean? I do not inquire about it. Will you take the vows of our order and renounce your woman's passion?
I of course.
When we were at Rugby's house, instead of Rugby, I saw a woman who looked dangerous, still very attractive. Was she a goddess?
No, Ananda, she was not a goddess.
Was she an illusion, a dream?
Yes, and dangerous. But she showed you the delusion of attraction and danger. They are only in our minds, Ananda. I was sitting under a tree, fighting to control my mind. I saw many beautiful maidens.
Says by a demon.
Yes, I resisted them. She showed me their emptiness. Those maidens are rose and they cease. Like you, Ananda, like Radhi, like everybody.
Like you.
Yes, Ananda, like me. Abandon all desire. Even the desire never to die. Abandon the desire to be somebody else. To hate or love somebody else. Because we are
ce passe double entre la réalité et le fantastique, la fiction, c'est quelque chose que vous avez dans vos...
Vous dites bien passe double, ça peut être un tango,
ça peut être une valse, une bourrée.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que bon, passe double, c'était...
Oui, pas mal.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appréhendé assez tôt dans votre carrière, quand vous avez commencé à...
Oui, sûrement, mais je suis plutôt un homme de fiction, je suis plutôt quelqu'un qui...
Mais la façon dont l'un nourrit l'autre.
Bien sûr, est-ce que la réalité et la fiction se séparent? Je ne le crois pas. La réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est. Nous l'inventons à chaque instant. Moi, j'ai une formation d'historien. Mes études, c'était... Or, je vois que l'histoire, personne n'est d'accord. Chaque pays raconte son histoire à sa manière. Si vous lisez un manuel d'histoire chinois, aujourd'hui scolaire, vous y apprendrez que le Tibet a toujours fait partie de la Chine. Ce qui est absurde, ce qui est complètement faux, et ainsi de suite. Donc, l'histoire elle-même n'existe pas. La réalité, ou plutôt la vérité, est infiniment discutable. À chaque instant. Hier, il y a eu des morts à Homs, en Syrie. Immédiatement, et le jour même, les uns ont dit que c'était la faute des autres, et les autres des uns. Donc, déjà, dès le premier jour, la responsabilité est reportée sur deux groupes opposés. Qui fera un jour la lumière, si lumière doit être faite? C'est comme ça tout le temps. Donc, il faut se méfier à la fois de la vérité de la réalité. Oui. En réalité, la fiction a plus de réalité que la réalité, si on peut dire. Quand on atteint dans le domaine de la fiction, on met en scène des personnages qu'on a inventés, et on les fait parler, on les fait vivre. Quand on atteint quelque chose qui ressemble à une vérité, qui nous paraît vivant et vrai, c'est plus vrai que n'importe quelle réalité. Vous comprenez c'est à ça, en tout cas, que nous tendons. C'est ce que nous essayons d'atteindre.
Dans les multiples, diverses collaborations, il y a effectivement les personnalités avec lesquelles cette collaboration, ce travail a duré. C'est fait sur la longueur. Vous avez cité Peter Brook, je crois qu'il y a plus de 30 ans avec Peter Brook.
34 ans, et je travaille en ce moment même avec Pierre-Etex.
Voilà.
Donc, vous voyez, ça fait 55 ans que...
Quelle valeur vous donnez particulièrement à justement ces collaborations sur la durée, où il y a vraiment une complicité, où il y a une connaissance mutuelle autre? Est-ce que c'est quelque chose qui est différent par rapport...
Il y a à la fois le fait qu'on connaît la personne avec qui on travaille, donc il y a un certain nombre de choses que c'est plus la peine de se dire, que nous savons déjà. Hein. Si l'autre fait toute petite grimace quand on lui propose une idée, on sait que c'est pas la peine d'insister. Oui. Il y a ça, et puis il y a de l'autre côté le fait que, comme moi je vais butiner d'une fleur à l'autre, par exemple Pierre-Etex me disait que quand tu vas travailler avec Buñuel pendant 3 ou 4 mois et que tu reviens, tu n'es plus le même. Quelque chose en toi a changé, donc peut-être Etex en profite indirectement, peut-être que sans le savoir, je suis quelque chose qui va transmettre une impression, un sentiment, une manière de travailler, une réflexion, une atmosphère, ne serait-ce que cela, à celui avec qui ordinairement je travaille, tandis que... Alors, il ne faut pas pousser trop loin, parce que ce serait presque une apologie d'adultère, ce que je veux dire. Vous vivez avec une femme que vous aimez et qui vous aime, mais de temps en temps, vous allez voir ailleurs, sous prétexte que vous allez lui apporter des choses. Non, bien sûr. Mais dans mon domaine, c'est vrai que ça peut marcher. Ça peut marcher très bien.
Est-ce que pour l'homme de culture, avec un grand C, avec plein de S derrière, que vous êtes, même si effectivement on sent que toutes les problématiques d'ego sont pulvérisées et ne vous intéressent pas vraiment, est-ce que de temps en temps, quand vous sortez de votre enveloppe, j'allais dire, et que vous regardez ce que vous êtes, ce que vous avez fait artistiquement, culturellement, comment vous percevez? Vous avez cité cette belle métaphore de passer de fleur en fleur.
Je me situe nullement, c'est pas à moi de le faire, et d'ailleurs je n'ai aucune intention.
Justement, c'est pour ça que je vous le demande.
Simplement, je me dis que si un jour, je le dis à mes amis proches, je vous le dis, vous m'entendez me plaindre de ma vie, alors il ne faut pas hésiter à me gifler. Hein, parce que j'ai eu une vie formidable dans le sens où j'ai pu satisfaire la plupart de mes curiosités dans beaucoup de domaines, artistiques, humains, etc. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été gâté, j'ai été vraiment... verni, j'ai été chanceux et j'espère en avoir rendu quelque chose. Ce qui m'étonne le plus, c'est que j'ai plus de 80 ans et qu'il y a des jeunes metteurs en scène qui veulent travailler avec moi, et beaucoup, et du monde entier, qui vient. Alors je me dis, pourquoi l'ordinaire à 80 ans, un auteur est plié depuis longtemps et puis il est aux oubliettes et il n'intéresse plus personne. Pourquoi est-ce qu'ils viennent encore? C'est que peut-être ils espèrent trouver à travers moi des échos de Jacques Tati, de Louis Malle, de Louise Buñuel, qui sont peut-être encore restés là, dans mon inconscient, à mon insu, je cherchais le mot.
Et dans l'autre sens, quand vous, justement, vous collaborez, vous travaillez avec tous ces gens-là, on sent toujours en vous une sorte de gloutonnerie, on sent, il n'y a aucun moment dans cette conversation, on a senti une lassitude par rapport, et pas uniquement
non,
sur l'aspect
de
souvenir.
Non, je n'ai pas de gloutonnerie non plus, je ne suis pas avide de ceci ou
une verve,
cela.
Alors, c'est pas...
Non, j'aime pas. Par exemple, en ce moment, il y a un jeune metteur en scène autrichien qui a écrit une histoire que Michael Haneke, avec qui j'ai travaillé, m'a recommandé. Ce jeune metteur en scène, il est venu me voir avec un projet d'histoire qu'il avait écrit, et ça m'a beaucoup intéressé, son histoire. Alors nous faisons une chose très amusante. Il vient de temps en temps passer 3 ou 4 jours à Paris, et pendant 3 jours, et uniquement 3 jours, on travaille ensemble. Je vais le rejoindre tout à l'heure, ce sera là. Il s'en va après, il prend l'avion ce soir. C'est très passionnant de faire ça. Vous voyez, bon, je crois qu'on est arrivé pratiquement à un scénario complet. En comme ça, avec des ponctions, vous voyez, de temps en temps, une petite injection de scénario. Et il me dit que ça l'aide énormément, parce que lui, travaillant tout seul à Vienne, et il y a des moments où il bloque, où il a besoin de venir me voir pour que je le titille, pour que je lui transmette quelque chose, une idée que peut-être il va repousser, une autre qu'il va adopter. Mais c'est très passionnant, parce que ça concerne à la fois ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et il y a un contact humain qui s'établit nécessairement, qui peut être... Je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un avec qui je m'engueulerais ou que je ne pourrais pas supporter. Ce ne serait pas possible. Donc je ne partagerais pas les idées, ce serait inconcevable. Mais jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas arrivé.
Quel regard vous portez sur...
Même pas avec vous.
Quel regard vous portez sur... on a parlé des outils tout à l'heure, sur Internet, qui finalement n'est qu'un outil, par rapport justement à ce qui peut empêcher, par rapport à la connaissance, à la culture, le fait de passer, le fait de... vous avez évoqué tout à l'heure sur l'apprentissage, sur certaines
Écoutez,
choses...
Écoutez, moi, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les développements de la technique.
Chaque technique veut un peu anéantir la précédente.
Je ne suis pas un spécialiste d'informatique, mais je me débrouille très bien avec mes ordinateurs. J'ai un email, je travaille avec Internet quand il le faut, je vais chercher des renseignements sans être un fanatique, sans être un addict d'Internet. De la même façon, je suis passé très facilement du franc à l'euro. Ça ne me pose aucun problème, vous voyez, ces choses-là. Simplement, je me dis que, en ce qui concerne le traitement de texte, par exemple, sur Internet, il ne faut pas oublier que les gens de ma génération ont passé leur jeunesse avec des machines à écrire portatives qui étaient horribles. Mais c'était quelque chose, les dents se chevauchaient, il fallait avoir une gomme, du papier carbone pour avoir deux copies. Quand j'allais travailler avec Manuel au fin fond du Mexique et une machine à écrire portative, quand mon ruban se déchirait pour en trouver un de rechange à Zitacuaro ou à Huitzilango, c'était absolument impossible. Donc pour moi, l'ordinateur a été évidemment un progrès considérable dans ce domaine-là, purement technique. Mais l'idée que l'ordinateur pourrait nous donner des idées est évidemment absurde. Ni l'ordinateur, ni la machine à écrire. C'était une fois, je donnais des cours à l'école de UCLA à Los Angeles. Et il y a un étudiant qui me demande, est-ce qu'un jour... Il y avait deux questions intéressantes. Est-ce qu'un jour, les ordinateurs feront des films? J'ai dit oui, sans aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et d'autres ordinateurs iront les voir. Ça les a fait beaucoup rire. Après, un peu plus tard, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que les nouvelles techniques d'écriture ont changé l'écriture? Proprement dit. J'ai dit ça, c'est très difficile à dire. Est-ce que le tic-tac-tac de la machine à écrire a changé? On l'a beaucoup dit, ça, l'écriture des romans policiers américains d'une certaine époque, c'est possible qu'il y ait un certain rythme comme ça. Mais on ne peut pas dire vraiment, on n'est pas sûr. Reportons-nous, j'ai dit, au 19e siècle. Est-ce que le passage de la plume d'oie à la plume métallique a changé la littérature? Là aussi, on peut dire oui, on peut dire non. Mais une chose est certaine, nous serons tous d'accord sur un point, ça a changé la vie des oies. Alors là, tout le monde était d'accord.
Mais est-ce que vous, justement, à titre personnel, par exemple, vous avez évoqué ces machines à écrire et aujourd'hui un ordinateur, le simple fait d'insérer un morceau de texte au milieu d'un texte, le simple fait, justement...
Ah bien sûr, le copier-coller, tout ça, c'est formidable.
Quand vous retrouvez dans un coin perdu, de savoir
mais,
que vous avez...
Mais il y a une chose qui n'existe pas sur l'ordinateur, c'est le brouillon. Et ça, c'est la chose qui me manque. Quelquefois, quand j'ai une scène difficile à écrire, ou un texte un peu compliqué, ou une scène de dialogue, surtout vivant, difficile, il faut que je fasse à la main. Parce que je peux rayer, je peux mettre un mot en marge, je peux faire des courbes et des flèches, ce que je ne peux pas faire sur un écran d'ordinateur. Sur un écran, il y a ordre dans l'ordinateur. Un texte est déjà mis en ordre. Et ça, mon dernier livre s'appelle Désordre, donc je suis plutôt un apôtre du désordre que de l'ordre.
Est-ce que ce Wagner Dream vous a donné envie éventuellement de vous replonger encore une fois de plus dans le monde?
Oui, j'aurais beaucoup aimé travailler avec Jonathan Harvey, qui n'est pas en bonne santé en ce moment, malheureusement. J'espère qu'il se remettra. Notre collaboration a été, j'allais dire idyllique, non? Elle a été baignée d'un calme bouddhiste, vraiment. Il y avait dans notre travail, et dans les répétitions, dans le travail avec les musiciens, quelque chose qui tient beaucoup à lui, qui tient beaucoup à Jonathan et à son personnage, d'un calme créatif, qui n'était pas un calme passif, un calme très attentif et très bienfaisant.
Bien, donc je rappelle que ce livret donc, est extrait, enfin asservi à Wagner Dream de Jonathan Harvey, qui vient d'être édité par Cyprès. Merci Jean-Claude Carrière.
Ben, merci à vous, à la prochaine.
Marinera, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. flottis contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent. Je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me troublait perdument se prolonge éternellement. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Petit contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent d'un regard plein de douceur. Et quand nos corps se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.